c'est pas lui. Quelqu'un va sûrement me réclamer, mais je ne pourrai pas vous dire qui. La photo dans ce porte-monnaie, si c'est une blague, c'est pas gentil. D'abord, j'aime pas tellement les brunes, et des femmes j'en connais aucune. Et même si c'est un trou de mémoire, qu'est-ce qu'elle attend pour le faire savoir? Amenez-moi devant chez moi. Amenez-y, c'est pas ici. Amenez-moi devant un papa. Amenez-y, non, c'est pas lui. Laissez-moi seul, j'ai à rêver, j'ai à reconstruire tout un passé. Je vais m'en faire un tout doré, personne ne peut m'en empêcher. Ça pourra toujours me servir, ça pourra m'aider pour l'avenir. Je vais même l'écrire sur un cahier, pour être sûr de ne pas l'oublier. M'amenez pas devant chez moi. Amenez-y, restons amis. M'amenez pas, ne m'amenez pas de papa. Amenez-y, je te dis merci. Je te dis merci.
Essayez de mourir, surtout ne pas crever, surtout ne rien sentir, fermer son cœur à clé, juste laisser crouler mon pauvre amour en panne. Juste. Te dire que j'ai peur dans le noir, ni te chercher partout comme quand on était fou, quand on se disait tout, quand on se disait fou. Le contraire, si tu préfères, on peut s'aimer même en enfer. Pour ne rien te cacher, je voudrais tout casser et puis tout oublier, même de t'oublier. Ne jamais dire jamais, ne plus jamais être la même. Ne jamais dire jamais, ne dirai plus jamais je t'aime. En ce moment, c'est vrai, j'ai du mal à m'offrir. En ce moment, tu sais, j'ai très mal à sourire. Alors, je ris très fort pour faire beaucoup de bruit. Alors, je fais la morte et l'amour à crédit. Ou le contraire, si tu préfères, on peut crâner même en enfer. Mais je suis prête à tout, peut-être c'est possible. Je serai ton bijou, Et si tu me reviens d'un coup de téléphone, je ne serai plus rien, ni même plus personne. Le contraire, si tu préfères, on peut crever, même en enfer, pour ne rien te cacher. Oui, tu vois, j'en suis là.
Eh bien, bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur Radio Libertaire pour cette à peu près 21e émission Livre en lutte. Dans la précédente émission, on s'est penché sur l'histoire du roman noir américain, le roman noir et pas que. On y a parlé entre autres des hobos, de l'influence de la CIA dans la fiction américaine, et aussi des femmes et de leur représentation dans ce genre. Aujourd'hui, moins de blabla et beaucoup de musique, puisqu'on enchaîne avec une petite approche du jazz dans les films policiers. Outre les films de cinéma, on écoutera aussi des thèmes de séries télé. Alors une bonne musique de film ne fait pas forcément de bons standards, et une bonne musique, ça fait pas forcément une bonne bande originale. Et le problème du jazz, c'est qu'il capte un peu trop l'attention. On a vu des compositions ne pas être retenues pour des bandes originales. Je ne vais pas forcément détailler tous les line-up ou réciter toutes les reprises de chaque thème, c'est pas ma façon d'écouter du jazz. Un grand merci à Thierry, ancien animateur de Radio Libertaire, pour le prêt de son livre de Gilles Moëlic, Jazz et cinéma, qui est le seul livre que j'aurais utilisé aujourd'hui. Alors, parlons des rapports entre le jazz et le roman noir déjà. Donc le polar fascine les amateurs de jazz pour son style syncopé. Il y a aussi pas mal de décors en commun. Tous les musiciens noirs de jazz ont joué dans toutes sortes de boîtes de nuit, de bars plus ou moins louches, de tripots ou de bordels. Le polar, c'est une partie de cette culture américaine qui fascine un certain public en France, à l'instar du jazz. On sera aussi beaucoup dans cette émission dans les années 50 et 60. À l'époque, c'est l'Amérique qui produit les grands films, la musique à la mode et les grosses bagnoles de rêve. Mais pour le coup, si les romans noirs illustrent presque systématiquement la part maudite ou l'envers du décor du rêve américain, les films policiers, eux, seront beaucoup plus consensuels. Alors pour ce qui est du cinéma, Moëlic nous dit que le jazz a accompagné le renouveau du jeune cinéma en France, et je sais que chaque réalisateur de la nouvelle vague était fan de jazz. Il dit que le jazz a été une influence esthétique majeure pour les cinéastes américains qui voulaient faire du cinéma autrement. Alors ce sera un peu progressif, hein. En plus, ils ne vont pas forcément, ces réalisateurs américains, utiliser un jazz très moderne. Donc ça, on verra un peu plus tard. Et on va commencer tout de suite avec le film de 1955, L'homme au bras d'or, d'Otto Preminger, avec une musique d'Elmer Bernstein. Parce que c'est très important, c'est ce film qui marque le début d'une façon d'utiliser le jazz au cinéma de façon assez systématique et de l'adapter. Alors, le film est tiré d'un polar de Nelson Algren, c'est le pseudo de Nelson Algren Abraham, un sacré bonhomme, ex-hobo, juif, communiste, bien porté sur le jeu l'alcool, qui mine de rien est le premier écrivain à obtenir le National Book Award en 1950, puisqu'il venait d'être créé, avec ce polar éponyme donc. Donc on nous dit qu'à l'époque, il avait dû lutter avec les maisons d'édition parce qu'il ne représentait pas les malfrats comme viscéralement mauvais, mais plutôt comme des victimes des circonstances économiques ou de leurs illusions. Et parce que ses romans traitaient de la face sombre de la société américaine, ça lui avait valu de la part du FBI un dossier de 500 pages, mais ils n'ont pas vraiment réussi à le compromettre. Un détail, dans les années 60, c'est lui qui va encourager le jeune Russell Banks à écrire, qui lui en a toujours été reconnaissant, le grand Russell Banks qui nous a quittés donc cette année. Alors, pour ce qui est de la musique, le morceau qu'on va entendre est pour le coup une sorte de medley à lui tout seul. On y retrouve plusieurs thèmes repris dans le film, avec notamment les stridents à la trompette qui accompagnent les scènes de fixe, comme on disait à l'époque. Sorte de café gourmand en somme, avec une bonne dose de caféine et puis quelques douceurs. Donc c'est le premier film à parler, à parler de la drogue. On voit une scène de fixe, on voit deux scènes de manque. Sinon, bon, les deux personnages féminins sont des blondes. L'image n'est pas du tout stylisée selon tous les stéréotypes qui vont pas manquer d'apparaître et dans les films policiers et dans les téléfilms policiers. Donc le film est connu pour son générique, réalisé par le graphiste Saül Bass, qui va faire aussi la pochette du film, etc., qui fera aussi la pochette d'un autre film d'Otto Preminger qui s'appelle Autopsie d'un meurtre, et de quelques autres pochettes d'albums de jazz. Il y a un Miles Davis, il y en a d'autres. Donc on va écouter ça tout de suite. je me suis un petit peu trompé. Parce que vous venez d'écouter Art Blackie et les Messengers pour la BO de Des Femmes Disparaissent de Edouard Molinaro. Eh bien, on va inverser. Donc, on revient en France, pour le coup. Donc, en 1957, il y a Vadim qui, pour la première fois, met du jazz dans son film « Sait-on jamais ?». Dans le film, il y a déjà Robert Hossein. Et en 58, donc, on a un film policier ou une comédie policière d'Edouard Molinaro. Donc, le scénario, c'est Gilles-Maurice Dumoulin d'après son roman. Je connais pas trop cet auteur. Les dialogues sont d'Albert Simonin. Donc, lui-même, un auteur mythique de la série noire. Un des grands utilisateurs de l'argot avec Jean Amila. Et donc, Art Blackie, avec d'autres, va inventer un style de bebop un peu moderne, et plus tard un peu plus de hard bop. Voilà, donc ça, vous venez d'écouter la chanson. Du coup, je vous passe Elmer Bernstein, la musique de l'homme au bras d'or. donc en 58. On a aussi, évidemment, Ascenseur pour l'échafaud qui sort, donc réalisé par lui-même, tiré du roman du même nom de Noël Calef, qui était sorti en 56. Donc un des premiers longs métrages de la Nouvelle Vague. Alors, les morceaux sont souvent très connus, donc je vais essayer d'en passer un peu moins un rabâché. Donc on écoute ça. Reste en 58 et on va parler du film Je veux vivre. C'est un film de Robert Wise qui va confier à Johnny Mandel la composition de la bande originale. C'est pas tiré d'un polar, ça repose sur des articles écrits par le journaliste Ed Montgomery qui va décrocher le prix Pulitzer et qui est fondé sur des lettres écrites par Barbara Graham, une femme accusée de meurtre et exécutée, et on n'était pas certain vraiment de sa culpabilité. Alors, anecdote pour rendre le film le plus réaliste possible, le réalisateur et le directeur de la production et le directeur artistique vont assister tous les trois à l'exécution d'un certain James Ruiz, au hasard un Afro-Américain, dans la chambre à gaz de la prison de Saint-Quentin. On voit une longue scène d'exécution à la fin du film, plutôt soft, et pour le coup donc pas forcément très très réaliste. Alors, l'interprète, c'est Susan Hayward. Pour une fois, on est dans un film noir, mais l'héroïne n'est pas blonde, elle est châtain ou brune. Elle minote quand même pas mal dans le film. C'est un personnage aussi assez bravache. On la voit en tenue en robe de soirée dans la prison. C'est pas hyper réaliste. Et puis, je vais vous parler de Mandel. On va faire, je vous disais tout à l'heure, que on n'utilisait pas forcément un jazz moderne, Mandel n'a fait que des musiques pour le cinéma. Donc là, il faut faire la différence entre avec un jazz blanc et un jazz noir. Dans les années 40, il y a peu de jazz dans les films noirs, et c'est toujours un peu le même style. C'est-à-dire que Monique précise qu'il s'agissait d'un jazz d'imitation, purgé de toute violence et de toute subversion, où l'improvisation n'a aucune place. On a longtemps employé et montré que des musiciens blancs. Et Monique explique que le cinéma, c'est l'occasion d'une usurpation sur fond de ségrégation, où le jazz est présenté comme ayant été inventé par les blancs, qui ont su transcender un folklore primitif pour en faire une musique universelle. Et pour la très grande majorité des films, c'est un jazz West Coast qui est utilisé, jazz West Coast, qui comptait très peu de musiciens noirs. Il y en a quelques-uns, comme Chico Hamilton, mais ils sont quand même plutôt rares. Et Moelick parle d'un jazz blanc et sage, très à la mode, à Hollywood, et très rémunérateur. Donc il dit ça parce que beaucoup de West Coasters vont trouver beaucoup plus facile de se consacrer à la musique de film plutôt que d'aligner des tournées. Et Moelick cite une définition de la West Coast qu'il tire d'un que sais-je sur le jazz, qui parle d'une musique audacieuse et apprêtée parfois, simple et tranquille souvent, bien faite et courtoise. Et Hugues Panassier va dire de la West Coast que c'était un jazz de blanc. Ça se confirme. Alors que, en même temps, l'arrivée et une certaine généralisation du jazz dans les films policiers va coïncider avec un moment où drogue, sexe, violence et alcool et racisme sont clairement évoqués à l'écran, mais sans le bebop et le free jazz, pourtant chargé de toutes ces violences, et qui sont clairement des styles de jazz noir inventés et portés par des musiciens impliqués dans les luttes contre la ségrégation ou la fierté d'être noir. Donc c'est un peu un rendez-vous manqué, bien souvent, entre le jazz et le cinéma. Donc on va maintenant parler des séries télé. Je vais en parler globalement avant de passer les musiques. Donc à la fin des années 50, il y a tout un tas de séries télé policières qui vont sortir. On a d'abord Richard Diamond, de 55 à 60, avec David Johnson, une musique de Pete Ruggolo, qui vient du jazz, mais qui ne finira par ne faire plus que des musiques du film. Et quand je dis jazz, c'est encore une fois un jazz West Coast. Après, on a M-Squad avec Lee Marvin, de 57 à 60, avec le thème principal de Count Basie et quelques autres thèmes de Benny Carter. Les autres titres sont de Stanley Wilson, qui, encore un, n'a travaillé que pour le cinéma et la télévision. Ensuite, on a Peter Gunn. Alors, Peter Gunn, avec une musique de Henry Mancini, à qui on doit également le thème dans La Panthère Rose, de Columbo, de Midnight Cowboy, et qui n'a travaillé, encore un, que pour Hollywood, même si certains titres ont été repris par Sinatra, et puis aussi Andy Williams, qui lui faisait, je sais pas, de la variété, on peut appeler ça comme ça. Il avait fait aussi le tube Moon River, de l'excellent Diamant sur Canapé, mais je crois que si on apprécie ce titre, c'est surtout parce qu'il nous rappelle ce film Diamant sur Canapé. Donc on va écouter Peter Gunn. Alors Peter Gunn, c'est une série télé, il y a eu 114 épisodes, ça a quand même pas mal marché, donc de 58 à 61, qui a été diffusé en France. Donc ça met en scène un détective privé à Los Angeles, donc qui aime les femmes, qui picole, etc. Et qui aime le jazz, qui l'écoute souvent au comptoir du club Mothers. Donc on va s'écouter un Peter Gunn. Je crois que je mis carrément le titre phare, je crois. On écoute ça. Avec mes excuses, enfin le thème de Peter Gunn. Donc d'autres séries télé, on aura Johnny Staccato, donc c'est de 59 à 60, avec Cassavetes dans le rôle principal d'un pianiste de jazz qui est aussi détective. Donc de la secrétaire à la chanteuse du dernier tripot, tous les personnages féminins sont incarnés par des actrices blondes et magnifiques. C'est l'occasion quand même de trouver lors d'un épisode Gina Roland, c'est l'épisode Fly Baby Fly, une époque à laquelle Cassavetes est déjà marié avec elle. Donc chaque épisode commence dans un club de jazz, le Waldo's, et s'y termine bien souvent. Il n'y a pas forcément une bagarre et un mort dans chaque épisode. Et côté jazz, c'est la série, moi je trouve, la plus intéressante. Alors par contre, même si dans le film, les scènes ne sont pas forcément convaincantes, si, elles sont un peu plus convaincantes et naturelles que par exemple dans Peter Gunn. Donc on va écouter non pas le thème de Johnny Staccato, mais un autre morceau un peu moins connu, mais que j'aime pas mal. Thank you. donc maintenant, on est déjà en 1959, et on va parler d'autopsie d'un meurtre, d'Otto Preminger encore une fois, avec Duke Ellington. Et Duke Ellington, on est content de le retrouver avec une musique moins swing. On revient, je trouve, avec ses morceaux un peu tendus, à sa grande époque jungle, qui allait si bien au roman noir, parce que la tension, et puis beaucoup, beaucoup d'ironie. Donc, je vous passe un Duke Ellington. Donc, il avait obtenu un Grammy Award de la meilleure BO. Le film lui-même a eu 6 Oscars. D'après un roman de John Lee Walker qui signait Robert Trevor, qui était avocat, juge et donc écrivain. Je ne sais pas si j'ai passé le morceau le plus nerveux. On va s'écouter un deuxième titre sur la même face. On s'écoute ça tout de suite. Thank you. Donc maintenant, on revient en France avec un film en 1962, Le Doulos de Jean-Pierre Melville, avec une musique de Paul Misraki. Alors Paul Misraki, avant d'être le compositeur des musiques de 180 longs-métrages, c'est d'abord le compositeur des musiques de Ray Ventura et ses collégiens. Pour moi, c'est le début d'une époque où le jazz est en France une musique presque populaire. Ventura va faire beaucoup de tournées, de concerts et de films. Donc il est dans la tradition des orchestres à sketch, façon orchestre du Splendide ou les Haricots Rouges ou d'autres. Donc une époque, je dis, où le jazz est presque populaire, même traîné, utilisait beaucoup ce qu'il appelait les musiques rythmiques. On a aussi Borisian, qui va nous faire des chansons, des intros très jazz, sur des textes drôlatiques, on est encore toujours dans la même tradition. Donc là, c'est arrangé par Goraguer. Goraguer qui va faire aussi les 5 premiers albums de Gainsbourg, je crois. Là, c'est beaucoup plus jazzy, même si c'est toujours un petit peu ironique. Alors, j'ai dit presque populaire, parce qu'en fait, les albums de Gainsbourg vont pas du tout se vendre. Malgré, par exemple, l'excellent album qui s'appelle Gainsbourg Confidentiel, avec juste 2 musiciens de jazz. Mais c'est absolument excellent, et puis avec une bonne prise de son, etc. Alors, à noter que Misraki, c'est quand même le seul compositeur de musique de film de sa génération qui va passer le barrage de la Nouvelle Vague. Il va faire 3 Chabrol et un Godard. Donc, contrairement à Joseph Kosma ou Georges Auric, eux qui n'étaient pas du tout jazz, même pour les quelques films policiers qu'ils ont illustrés. Donc, on passe à... Donc, Le Doulos... Le Doulos, donc film policier, avec quand même notamment le final qui est très mélodramatique. On se souvient, c'est Belmondo qui arrive dans un pavillon de banlieue. Il y a Reggiani par terre en train de mourir qui lui dit une phrase. Paravent, Belmondo tire dans le paravent qui tombe. Derrière, il y avait un tueur qui est caché, il tombe à son tour. Belmondo lui tourne le dos. Le tueur tire dans le dos de Belmondo qui va vers le téléphone et qui dit... quelque chose comme « je ne vais pas rentrer ce soir » et qui meurt à son tour, 4 minutes, 3 morts, 2 petites phrases et pas une note de musique. Il y en a quand même un petit peu et on va s'écouter ça. Donc, Le Doulos, Paul Misraki, je vous trouve le morceau. Thank you. Alors on va élargir un petit peu, puisqu'on va parler d'un film qui n'est pas un polar, c'est Shadows de Cassavetes. Donc disons que c'est une tranche de vie avec une bande de copains. Cette tournée à New York, c'est pas un film qui traite du racisme, mais le sujet est bien présent. Donc là, on a bien affaire à un cinéma qui se réinvente et qui est basé sur une grosse part d'improvisation. C'était vraiment le but de Cassavetes. Donc plus de marque au sol, la caméra suit les comédiens et ça donne des plans de rue ou de bar beaucoup moins stylisés et archétypaux que dans les films policiers, pour ne rien dire des séries. Pour la petite histoire, Cassavetes avait refusé de prendre Miles Davis parce qu'il venait de signer avec une grosse major. Donc la musique est confiée à Charles Mingus parce qu'il travaillait beaucoup sur l'improvisation, hein, on ne s'est pas encore classé free jazz, mais on sait qu'il réunissait ses musiciens avec des partitions très dépouillées pour leur laisser la possibilité d'improviser. La musique n'est pas très présente, il y a un plan d'une minute trente sans parole où on entend vraiment la musique de Mingus, mais sinon elle est plutôt en filigrane, parfois superposée à des conversations légères. Elle n'est pas là pour souligner chaque scène. Malheureusement, les films suivants de Cassavetes utiliseront un jazz plus classique. Donc, on va se faire plaisir en terminant cette émission avec un morceau de Charles Mingus tiré du film. Et je vous dis à bientôt.
chacun.
Chanterons le temps des cerises et guerre au signal et merle moka seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moka. Mais il est bien court, le temps des cerises, où l'on s'en va de pays en rêvant, dépendant d'oreilles. Cerises d'amour, aux robes pareilles, tombant sous la forme en gouttes de sang. Mais il est bien court, le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Vous en serez au temps des cerises. Si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. Le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune, en m'étant offerte, ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur.
J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur.
Oui, faites-nous des chansons et faites-nous les belles. Oui, faites-nous des chansons, nous les fredonnerons. Oui, faites-nous des chansons pour nous donner des ailes. Oui, faites-nous des chansons, nous nous envolerons. Si vous envolez, braves gens, aurez bien de la chance. Vous en aurez pas pour votre argent, pas pour votre espérance. Arrive que le chansonneur ait plus rien dans les poches, plus une miette de bonheur, plus une simple croche. Arrive que le rimailleur, là de se faire entendre ailleurs, reste dedans sa chambre, le cœur en plein décembre, et que le musicaillon bouffe le bois de ses crayons, déserté par les notes, les yeux en...